Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus consacrée à l'actualité internationale. Le Drian et Zarif ont discuté des dernières évolutions sur l'accord nucléaire. À peine quelques jours après des informations publiées puis démenties sur un éventuel début de dialogue entre l'Iran et les États-Unis, la France s'active. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, ont discuté au téléphone des dernières évolutions autour de l'accord nucléaire iranien et des mécanismes éventuels permettant à l'Iran de bénéficier des avantages économiques de l'accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est entretenu au téléphone avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Lors d'un contact téléphonique avec Zarif, qui se trouvait à Singapour pour prendre part à la 51e édition de la conférence ministérielle des pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud, ASEAN, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lui a parlé des derniers développements dans le cadre de l'accord signé en 2015 et ce, dans la foulée du retrait US. L'Iran attend toujours des mécanismes éventuels permettant à l'Iran de bénéficier des avantages économiques de l'accord, mais aucune mesure concrète digne de ce nom n'a été mise en avant par l'Europe. Après sa visite de 2 jours au Sri Lanka, le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu mercredi soir à Singapour pour participer à la 51e conférence de l'ASEAN et de signer l'accord de coopération avec l'association de l'Asie du Sud-Est. La tactique de la menace et du dialogue ne fonctionne pas avec l'Iran. Pour les experts russes, l'initiative de Donald Trump de se lancer dans un dialogue sans condition ni préalable avec l'Iran n'est qu'une tromperie. À l'antenne de la chaîne de télévision Russia Today, 2 experts politiques russes ont annoncé le jeudi 2 août que l'initiative du président américain Donald Trump d'organiser un dialogue sans condition ni préalable avec l'Iran n'était qu'une simple fourberie de la part d'un orateur chevronné. Vladimir Yurtaov, membre de la Société des Iranologues européens, a déclaré que les États-Unis optaient toujours pour une position intransigeante vis-à-vis de l'Iran et que l'initiative de Donald Trump ne transgressait sûrement pas le cadre de ses positions. Cette proposition fait partie des tactiques de Trump et n'est pas étrangère aux hostilités qui se manifestent de temps à autre via son compte Twitter. Il a utilisé le même moyen pour renouer le dialogue avec la Corée du Nord, a-t-il indiqué. Vladimir Yurtaov a rappelé que Washington, après son retrait de l'accord sur le nucléaire, n'a laissé aucune chance à un nouveau tour de discussion. Ce que fait à présent Donald Trump est de remplir son devoir de président, a-t-il ajouté. Les Yéménites ont organisé une marche d'envergure contre l'Arabie Saoudite. Des milliers d'habitants de Sanaa, capitale yéménite, ont participé à une marche d'envergure pour dénoncer les récents crimes commis par la coalition saoudienne contre les Yéménites, dont en particulier les femmes. Le vendredi 3 août, dans l'après-midi, des milliers de Yéménites ont participé à des manifestations baptisées « Nous offrons notre sang pour défendre notre dignité ». Selon la chaîne yéménite Al-Masira, à la suite de l'agression des femmes yéménites par des militaires et mercenaires de la coalition saoudienne dans l'ouest du Yémen, il y a quelques jours, un appel a été lancé aux yéménites les invitant à participer à cette marche. Dimanche dernier, les mercenaires saoudiens et yéménites ont enlevé plusieurs femmes dans la ville d'Al-Tahita, dans la province de Hudaïda, et les ont transférées dans un endroit inconnu. Les mercenaires qui ont agressé les femmes yéménites manquent de dignité et d'honneur, a déploré Mohamed Al-Houssi, président du Conseil suprême de la révolution du Yémen, lors de son discours prononcé à l'occasion de cette marche. Al-Houssi a également affirmé que sa proposition d'instaurer un cessez-le-feu unilatéral avait été présentée afin d'éviter toute effusion de sang et de protéger la vie des yéménites. Le mouvement Ansar Allah a annoncé le mardi 31 juillet qu'il cessait unilatéralement les opérations militaires en mer Rouge pendant 2 semaines pour soutenir les efforts de paix. Mohamed Al-Houssi a salué la résistance des groupes palestiniens face aux agressions et tactiques du régime israélien. Il a également rendu hommage au secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, pour son soutien au peuple yéménite et l'a qualifié de dirigeant libre. En Syrie, le compte à rebours a commencé pour les terroristes à Idlib. Après en avoir fini avec les terroristes dans le sud, l'armée syrienne se concentre sur le front du nord et Idlib. Simultanément au retour des déplacés syriens dans leur ville, il faut éradiquer le terrorisme dans la région, notamment à Idlib. C'est ce qu'a réaffirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov devant un parterre de journalistes. Le ministère russe de la Défense a annoncé que les terroristes de Tahrir al-Sham et d'autres groupes terroristes ont été déployés dans les provinces septentrionales de Hama et Latakia et au sud-ouest d'Alep, où ils attaquent des zones résidentielles. Le ministère a appelé les chefs de groupes terroristes à mettre fin à leurs actes de provocation. Lors d'une réunion la semaine dernière à Damas avec une délégation russe, le président syrien Bachar al-Assad a averti que la province d'Idlib était sa nouvelle priorité. La nouvelle stratégie de l'armée syrienne consiste à sécuriser la frontière turco-syrienne, d'où des hommes armés, des armements et des milliards de dollars d'aide financière s'infiltrent en Syrie, a-t-il indiqué. Étant donné que la ville d'Idlib fait partie des zones de désescalade et que la Turquie est proche, certains pensent que l'opération débutera plus tard que prévu à cause de son coût élevé, lit-on dans un article signé par Abdul Bari Atvan, rédacteur en chef du quotidien Rayalium, publié à Londres. Les autorités militaires et politiques turques évitent une confrontation avec Moscou et l'armée syrienne. En effet, Ankara n'a pas réagi lorsque la ville d'Alep faisait l'objet des raids aériens de l'aviation russe et des opérations terrestres de l'armée syrienne. Mais le point qui mérite réflexion, c'est que les provinces du sud dont se sont emparées l'armée syrienne figuraient dans la zone de désescalade. Et Israël avait averti l'armée syrienne de ne pas s'y approcher. Fort du soutien de son peuple, l'armée syrienne a fait fi de ses menaces et a lancé des attaques foudroyantes contre ces régions pour y liquider des terroristes. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou était parfaitement capable d'assurer la sécurité du pays grâce notamment aux changements en cours au sein de l'armée, et ce malgré le déploiement du bouclier antimissile américain. Prenant la parole lors d'un forum consacré à l'éducation et à la jeunesse, Sergei Lavrov a souligné que même dans le contexte du déploiement du bouclier antimissile américain, le pays est capable de défendre sa sécurité et sa souveraineté. Quel que soit la situation dans le monde, notre sécurité en tant qu'État et celle de nos citoyens, notre souveraineté seront défendues de manière fiable, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par le président Poutine, a-t-il précisé encore. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission et pour aborder ensemble les faits marquants de l'actualité internationale.